Pour ce qui est de ce matin et de notre méditation, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous avez une Bible à portée de la main, dans l'Évangile selon Jean, dont nous allons relire les premiers versets du chapitre 13. Le message de ce matin se situant dans le prolongement de celui que nous avons donné il y a de cela maintenant 2 mois environ. Évangile selon Jean, chapitre 13, nous lirons les versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arrivait donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, alors non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple. Un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Nous arrêterons là notre lecture. Jésus donc n'a plus que quelques heures à vivre. Aussi a-t-il choisi en ce début de soirée, veille de la Pâque, de se retirer dans un endroit tranquille avec ses disciples pour se préparer intérieurement à l'heure qui, dans quelques instants, doit sonner, l'heure infiniment douloureuse de sa dernière humiliation, de son suprême abaissement, de son ultime sacrifice. Mais en même temps, pour laisser à ses disciples ce que d'aucuns considéreront comme son testament spirituel. Entendez ici ces dernières instructions, ultimes paroles d'un maître qui sait qu'il va devoir prendre congé de ses disciples et qui tient à ce que chacun d'entre eux soit prêt lorsque surviendra finalement cette douloureuse séparation. On mange depuis un certain temps déjà. Lorsque brusquement, Jésus se lève, quitte son manteau, nous dit Jean, versets 4 à 5, prend un linge qu'il se met autour de sa taille, puis verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Au discours habituel, Jean a préféré, cette fois, pour instruire les siens, le geste. Un geste totalement inattendu et surtout tout à fait incongru un geste qui suscite d'ailleurs aussitôt une vive émotion, chez Pierre en tout cas. Mais cette vive réaction ayant déjà longuement retenu notre attention, c'était il y a 2 mois donc, je propose que nous n'y revenions pas ce matin et abordions sans plus tarder la question du sens du geste de Jésus, son sens. Car ce geste, bien sûr, a un sens qui, sur le moment, semble avoir échappé aux disciples, mais qui ne doit pas nous échapper à nous ce matin. En second lieu, donc, et pour reprendre la formule annoncée précédemment, en second lieu, la révélation que ce geste apporte, la révélation qu'il apporte. Il apparaît immédiatement, en effet, que le geste de Jésus n'est pas entièrement gratuit. Nous avons parlé précédemment de geste prophétique. Le terme est parfaitement approprié. Le seul fait que Jésus, ici, choisit de laver les pieds de ses disciples au cours du souper et non pas avant, comme le veulent et la raison et l'usage, suffit à nous alerter. Jésus a manifestement l'intention de transmettre à ses disciples un message. Quel message ? La réponse est claire. Il s'agit d'un message d'amour. Plus précisément, du message de son amour. Mais dans quel sens ? En ce sens que ce geste nous apparaît comme l'un des plus révélateurs jamais accomplis de l'amour de Jésus pour les siens. Un amour qu'il n'a cessé, tout au long de ce ministère, de redire et de prouver à nouveau. Un amour dont il dévoile maintenant devant les siens l'essence même. L'amour dont il aime est cet amour qui ne connaît pas de plus grande joie que celle de se mettre au service des autres. D'autres gestes en grand nombre ont par le passé déjà exprimé l'amour de Jésus, pour les siens en particulier. Mais celui que Jésus est en train d'accomplir, en un sens, les surpasse tous, dans la mesure où tous se trouvent résumés en lui et par lui. Car à quoi reconnaissons-nous finalement que le Fils nous a aimés comme nul ne nous a jamais aimés et comme nul ne nous aimera jamais ? Sinon au fait qu'il a choisi librement de venir sur cette terre pour être notre serviteur. C'est son amour tout entier qui se trouve comme récapitulé dans cette stupéfiante démarche. Une démarche que nul ne pouvait exiger de lui, mais à laquelle il consentait dès le commencement, parce que condition absolue de notre réconciliation avec Dieu. Une démarche qu'au temps fixé par lui, en accord avec le Père, il entreprenait finalement lorsque, pour reprendre l'inévitable formule de l'apôtre Paul, et je cite ici sa lettre aux Philippiens, « Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé. À tel point que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, prenant, je cite toujours, la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus n'a cessé de le dire à qui voulait bien l'entendre. Marc 10, 45, par exemple, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. » Et voici donc qu'en cette ultime soirée passée avec ses disciples, il répète, Luc 22, verset 27, « Moi, Jésus, je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert. » Faut-il rappeler ici que rien dans les origines de Christ ne le destinait à occuper une telle place, bien au contraire. Peut-être. Nous avons si vite fait, en effet, de considérer comme naturel les choses les plus impensables a priori. Non, rien, et je dis bien rien, dans ses origines si glorieuses, ne destinait le Fils de Dieu au dépouillement, à l'abaissement, à l'humiliation. Et pourtant, n'est-ce pas précisément ce dépouillement, cet abaissement et cette humiliation absolue qu'il a choisi pour se faire serviteur, non seulement de Dieu, mais encore des hommes. En acceptant ainsi de s'oublier lui-même, au point de renoncer à tous ses privilèges, le Fils a donné la mesure de son amour pour les hommes. Des hommes qui avaient déjà rejeté son Père et dont il savait pertinemment qu'il le rejetterait lui aussi, poussant même le vice jusqu'à l'assassiner sur une croix. Des hommes qu'il aurait dû abandonner aussitôt à la mort qu'il méritait largement. Oui, en acceptant, comme il l'a fait, de renoncer librement à la place du souverain qui l'occupait de droit, aux côtés du Père, pour prendre celle de l'esclave à notre côté, le Fils a définitivement montré de quel amour il nous aimait. Et c'est de cette stupéfiante démarche que témoigne ici le geste si simple du Seigneur. « Parce que je vous ai aimé, dit-il en substance à ses disciples, je me suis fait votre serviteur, et voici parce que je vous aime, je demeurerai votre serviteur jusqu'à la mort. » Acceptez donc ce geste, je vous le laisse comme une illustration de ce que depuis toujours j'ai voulu être, de ce que j'ai été hier, de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je serai demain, encore et toujours votre serviteur. Mieux qu'un long discours, ce simple geste, par conséquent, vient d'éclairer pour les disciples, et pour nous par la même occasion, l'essence même de cette extraordinaire mission que par amour pour le monde, le Fils s'est assigné, je veux dire celle, encore une fois, de servir les hommes. Et nous conclurons ce chapitre en soulignant la valeur inestimable de ce service. Il nous a tout apporté. Tout ce qui jusque-là nous faisait si cruellement défaut. Et je pense ici plus particulièrement à la lumière et à la vie. Jésus, en venant devant de nous de la part du Père, nous a par son enseignement et par son exemple fait connaître Dieu. Et ce faisant, il nous a rendus à la lumière. Mais en s'abaissant jusqu'à nous, Jésus s'est aussi imposé comme mission de payer à la croix le prix de notre salut. Et ce faisant, il nous a rendus à la vie. En sorte que nous tous qui croyons en lui aujourd'hui et en celui qu'il a envoyé, nous pouvons dire que nous avons reçu de lui et la lumière et la vie. Voilà donc pour la révélation étonnante apportée par ce geste, par le Fils qui nous aimait, il s'est voulu notre serviteur, un choix stupéfiant qui l'a notamment conduit à abandonner toutes ses prérogatives et à s'abaisser jusqu'à mourir à notre place, afin que, par son sacrifice, commémoré plus tôt lors de ce culte, le plus grand nombre d'entre nous accède à l'éblouissante lumière de la vie véritable. Mais il nous faut avancer et considérer maintenant, après la réaction que le geste du Seigneur a suscité et la révélation dont il était porteur, l'appel qu'il contient. Car ce geste doit servir d'exemple, non seulement aux 12 rassemblés ce soir-là autour de Jésus, mais encore à tous les disciples de Jésus-Christ de tous les temps. Nous donc, compris. Verset 12 et suivant. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus, reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, Je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Aucun malentendu n'est donc possible. Jésus adresse bien ici un appel à ses disciples, les invitant à reproduire aussi souvent que faire se pourra le geste tout simple, qu'il vient d'accomplir sous leurs yeux ébahis. Un appel de la plus haute importance sur lequel je propose que nous nous arrêtions maintenant pour en considérer tour à tour le contexte, le contenu et les raisons. Le contexte. Jésus, à plusieurs reprises au cours de son ministère, a proclamé publiquement l'instauration d'un règne nouveau. Et ce terme seul de règne a suffi à réveiller chez les disciples en particulier de vieux rêves de domination et de gloire, tout ce qu'il y a de plus terrestre. Témoin, entre autres, ce triste litige qui, le souper ayant à peine commencé, les oppose à nouveau. Lequel d'entre eux est le plus grand ? Querelle mesquine s'il en est tout à fait déplacée. Mais qui en dit long, hélas, tant sur l'état d'esprit des disciples que sur leur incapacité à comprendre les propos de Jésus. Voilà pour le contexte. Une dispute entre les disciples, qui veulent savoir lequel parmi eux est le plus grand. Le contenu maintenant. L'appel qu'au travers de son geste, Jésus adresse ici à tous ses disciples me paraît double. Il s'agit d'une part d'un appel à l'humilité et d'autre part d'un appel au service, un appel à l'humilité. Ce que le maître attend désormais de ses disciples est d'abord un état d'esprit nouveau qui rappelle son propre état d'esprit, plus précisément cet état d'esprit qui était le sien déjà au moment où il choisissait lui, le Seigneur, de s'abaisser pour se faire le serviteur de ses propres sujets. Et cet état d'esprit qui est le sien encore, en cet instant précis, où il s'apprête à renoncer cette fois non seulement à sa vie, mais encore à la faveur même de son Père pour le salut des hommes. De tous les apôtres, c'est peut-être Paul qui formulera le mieux cet appel lorsque, s'adressant aux chrétiens de Philippe, encore une fois, il écrira, au chapitre 2 toujours, « Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. » L'humilité. Une disposition qui fait encore cruellement défaut à ses disciples au moment où Jésus choisit de les interpeller à ce sujet. Une disposition dont l'on souhaiterait, pour sa part, davantage partager aujourd'hui. Mais au fait, qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité dont il est question dans notre texte n'est autre que cette disposition d'esprit qui fait que, pour reprendre l'admirable expression retenue par Paul, je considère toujours les autres comme supérieurs à moi-même. Du coup, je suis prêt à faire passer mon propre intérêt au second plan, si l'intérêt des autres le demande. Ce qui m'importe désormais surtout, c'est leur bien-être, leur confort, leur joie, leur réputation. Et pour promouvoir cela, je suis disposé à tous les renoncements, tous les abaissements, tous les sacrifices à l'image de Jésus. Chers amis, qu'en est-il de nous ? Est-ce ainsi que nous regardons ceux qui nous entourent comme plus importants que nous ? Est-ce ainsi que nous considérons notre bien-être ou nos intérêts comme secondaires au regard du bien-être ou de l'intérêt des autres. Où et jusqu'où sommes-nous prêts à aller ce matin pour assurer leur prospérité? Quelles limites avons-nous par avance fixées au prix que nous sommes disposés à payer pour qu'ils ne manquent de rien et soient heureux, plus heureux même s'il était possible que nous-mêmes? Jésus, lui, est allé jusqu'au dépouillement total. Et lorsque finalement il lui était demandé d'offrir sa propre vie pour assurer notre fortune, il n'a pas trouvé trop cher le prix à payer. Puisse l'Esprit de Dieu enfin mettre en nous cette lumineuse et bienfaisante humilité qui est en Jésus-Christ. Mais s'il appelle qu'au travers de son geste, Jésus adresse ici à tous ses disciples, et d'abord un appel à l'humilité, il est aussi un appel au service. Et lorsque nous disons service ici, nous entendons plutôt service mutuel. Ce que le Maître attend désormais de ses disciples est donc non seulement un état d'esprit nouveau, mais encore un comportement nouveau, qui rappelle, là encore, le sien. Ce comportement qui n'a pas cessé de le caractériser depuis le jour où il a choisi de venir par les hommes, parmi les hommes, pour se faire leur serviteur. De même que j'ai été, que je suis encore et qu'en un sens je serai toujours votre serviteur, dit en substance Jésus, de même vous, soyez les serviteurs les uns des autres. Verset 15, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et Jésus insistait en ces termes, versets 16 et 14, « en vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que, vous le mettiez en pratique. » Autrement dit, le subordonné ne doit pas trouver indigne de lui ce que son supérieur, lui, n'hésite pas à faire. Plus qu'un geste nouveau, donc, c'est un comportement nouveau que Jésus, en cette soirée de la Pâque, enseigne à ses disciples. Ce qu'il attend d'eux désormais n'est pas forcément qu'ils se lavent mutuellement les pieds toutes les fois qu'ils se rencontrent, mais plutôt qu'à partir de ce jour, ils se mettent en permanence au service les uns des autres. Parce qu'ils sont disciples de Christ, ils se doivent d'emprunter les mêmes chemins que leur maître. L'imité est pour eux un devoir autant qu'un privilège. Ils n'ont donc pas d'autre choix que de donner eux aussi leur vie au service de leurs frères. Et ce qui est valable ici pour les 12 l'est aussi, c'est évident, pour nous tous aujourd'hui, qui nous disons être ses disciples. Ce que le Seigneur attend de nous, mais c'est qu'à sa suite, nous trouvions notre joie dans le service des autres. Que suivant son exemple, nous inventions régulièrement, sinon chaque jour, de nouveaux gestes, y compris des gestes totalement inhabituels, insolites, peut-être même incongrus, qui montreront à l'autre, qu'il s'agisse de notre partenaire, ou de notre enfant, d'un parent, ou d'un copain, d'un collègue, ou d'un voisin, d'un frère en Jésus-Christ, ou même d'un ennemi, que nous l'aimons plus que nous-mêmes. Suffisamment, en tout cas, pour faire passer sa prospérité avant la nôtre. Ce que le Seigneur attend de nous, oui, que nous n'ayons qu'une ambition, non pas celle d'être servi, mais de servir, acceptant par avance les sacrifices que pourra exiger de nous ce véritable diaconat permanent auquel nous avons tous été appelés. Alors seulement, dit Jésus, verset 17, nous serons heureux. Alors seulement nous serons heureux. Pourquoi ? Parce que seuls ont la faveur de Dieu, ceux qui savent s'abaisser devant les autres, et plus encore peut-être, exprimer par des actes concrets la disposition au service qui est en eux. Une fois encore, je pose la question, qu'en est-il de nous ? Que représentent pour nous les êtres qui nous entourent ? Ou ceux que nous ne faisons que croiser ? Autant de problèmes potentiels que nous avons tout intérêt à maintenir à distance ? Autant d'instruments à disposition qu'il vaut mieux soigner, des fois qu'ils pourraient un jour nous servir ? Ou autant d'amis dont le bien-être nous importe et que nous sommes bien déterminés à servir au mieux. Mais au fait, comment servir utilement quelqu'un dont on ignore les besoins réels et spécifiques ? Le chemin du service, on le voit, se confondra toujours avec celui de l'amour. Cet amour qui toujours veillera à rester ouvert aux autres, disponible pour recueillir jusqu'à leurs appels les plus discrets, attentifs pour pouvoir déchiffrer à temps sur leur visage parfois le signe d'une détresse gardée secrète. Puisse le Seigneur nous donner cet amour qui toujours veillera sur l'autre, discrètement, mais toujours prête à offrir le sourire, la main ou le verre d'eau qui rassure, relève ou restaure. Oui, puisse le Seigneur nous l'accorder, cet amour qui ne s'usera jamais, mais se renouvellera au contraire, et se fortifiera dans le service des autres, et ce d'autant plus que les gestes qu'il exigera seront plus ordinaires, plus obscurs, plus coûteux. Mais puisse le Seigneur nous accorder dans le même temps des frères et des sœurs suffisamment simples, suffisamment humbles, pour accepter d'être secourus toutes les fois qu'ils sont vraiment dans le besoin. Car vouloir servir est une chose. Trouver quelqu'un qui accepte d'être servi en est une autre. Voilà pour le contenu. Quelques mots pour terminer sur les raisons de cet appel. Nous n'en exposerons que deux les plus importantes à notre sens. La nature du royaume, d'abord, la nature du royaume. Nous l'avons dit, je le répète, le royaume dans l'enseignement de Jésus est avant tout un mode d'existence radicalement nouveau, régi par des lois nouvelles et dans lequel ne peuvent entrer véritablement que ceux que l'Esprit de Dieu a préparés à ce changement, en transformant déjà leur mentalité. Quand bien même nous le voudrions, nous pourrions pas ce matin évoquer par le menu chacune de ces lois nouvelles en vigueur désormais dans le royaume. Nous ne ferons donc ici que rappeler la première d'entre elles, celle dont toutes les autres découlent finalement et qui en réalité les résume toutes parfaitement, je veux dire, la loi de l'amour. Au cœur donc de cette vie nouvelle à laquelle tous les disciples sont appelés, et nous avec eux, se trouve l'amour. Et par conséquent aussi cet esprit de service qui émane toujours naturellement de cet amour. Ainsi, pour avoir part au royaume et entrer dans cette vie nouvelle qu'il représente, il est nécessaire, indispensable, de mettre une bonne fois pour toutes une croix sur toutes ses prétentions à s'imposer, à dominer, à être servi. Seuls, dit Jésus, seront admis dans le royaume et connaîtront de ce fait la vie véritable, ceux qui auront aimé sur cette terre comme lui-même a aimé, de cet amour qui trouve dans son bonheur, dans le service de l'autre. Mais il y a, me semble-t-il, une seconde raison à l'appel de Jésus, c'est la vocation des disciples, de tous les disciples. Quelle est cette vocation encore et toujours manifester Christ, l'exprimer devant le monde, afin que celui-ci, en les regardant, sache à quoi il ressemble, sache qui il est. Un privilège inouï, mais une lourde responsabilité également. Montrer Christ comme lui-même, pendant qu'il était parmi nous, nous a montré le Père. Et pour cela, penser, parler, agir, en un mot, vivre chaque jour un peu plus, comme il a lui-même vécu. Telle est la vocation ultime des disciples, de tous les disciples, et donc notre vocation à nous aussi. Voilà pourquoi il est si nécessaire, si indispensable que nous laissions l'Esprit de Dieu recréer en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre comme lui-même a vécu, et qu'ainsi l'autre, celle ou celui qui nous observe, découvre en nous quelque chose du vrai visage de Jésus-Christ. Voilà pourquoi en particulier, il est si nécessaire, si indispensable que nous laissions l'Esprit de Dieu nous enseigner à regarder les autres comme Jésus, lui, les regardait, afin que nous puissions les servir comme lui-même les a servis, et qu'ainsi le monde discerne enfin en nous, donc, l'image de celui que Dieu lui-même a appelé le serviteur par excellence. Mais, direz-vous, comment nos vies tellement opaques, laisseront-elles filtrer jusqu'aux hommes sans l'altérer cette lumière de Christ? Permettez-moi, en guise de réponse et de conclusion, de livrer ici à votre réflexion l'image du verre, V-E-2-R-E, que nous propose Philippe Zeisig dans son merveilleux petit livre « Une minute pour chaque jour » dont je vous recommande la lecture. Savez-vous comment est fait le verre? Eh bien, le verre est fait de matériaux opaques. Sable, chaud et soude. Mais de matériaux qui, fondus ensemble, donnent une matière nouvelle et, au miracle, transparente. Merveille du verre, commente l'auteur. Maintenant, si l'on veut plus transparent que le verre, si l'on veut le cristal et ses lumières, vous savez ce qu'on ajoute ? Je vous le donne en mille. L'une des matières les plus opaques qui soit, qui résiste même aux rayons X, du plomb. Du plomb. Quand nous parlions de miracle. Or, ce miracle des choses opaques, qui mises ensemble deviennent transparentes, ce miracle se répète constamment dans la vie et dans l'Église en particulier. Chers amis, cette image pour nous encourager. Pour nous encourager, plutôt que d'avoir honte de nos opacités, et ces opacités sont bien là, plutôt que d'avoir honte de nos opacités, mettons-les ensemble, et qui sait si le miracle ne se produira pas, ici aussi. Qui sait si leur fusion, ou si de leur fusion, le Seigneur ne fera pas bientôt une transparence, le révélant ainsi, enfin, aux yeux d'un monde ébahi dans tout le scintillement de sa gloire. Qui sait ? Amen.